Make some noise.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Derrière.
Derrière.
L'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
On a été voir un chef Séléka, demander ce qui s'est passé. Il dit oui, oui, on a fait une opération, on a été tués des terroristes anti-Balaka. Bon, il y avait une femme quand même dans le groupe des trois, donc on lui dit, mais on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui, oui, c'est dommage collatéral. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert la guerre, comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens, quoi.
Depuis une quinzaine d'années, le photographe William Daniels, lauréat notamment de 2 prix World Press Photo, documente les zones de crise, de la Centrafrique à la Syrie, en passant par le Bangladesh ou encore la Libye. Dernière actualité en date, le journal Le Monde vient de publier un portfolio d'une trentaine d'images du travail de William Daniels sur le 101e et dernier département français, Mayotte, 10 ans après sa création, avec le soutien de la National Geographic Society. Derrière l'objectif de William Daniels, nous sommes en 2013 en Centrafrique.
Je m'appelle William Daniels, je suis photographe depuis une quinzaine d'années à peu près, et je réalise des reportages si possible assez loin et si possible assez longs sur des thématiques souvent liées à des zones de conflit, à des crises humanitaires, donc beaucoup sur l'humain, depuis quelques années surtout pour National Geographic.
Des scènes de chaos et de violence devenues quotidiennes à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Depuis début décembre, des violences interreligieuses ont fait près d'un millier de morts dans le pays, d'après l'ONG Amnesty International. À Bangui, près de 210 000 déplacés se sont réfugiés dans des camps et la situation reste extrêmement volatile.
Je voulais parler d'un événement qui a eu lieu au tout début de la guerre en Centrafrique que j'ai couverte pendant 3 ans quasiment. Enfin, j'ai fait des allers-retours pendant 3 ans. C'était à mon deuxième séjour. J'ai fait un premier séjour déjà où on commençait à sentir le début d'un conflit pas vraiment religieux, même si ce sont des groupes qui sont affiliés à des religions, mais plus une sorte de conflit ethnique qui commençait à se préparer. On sentait quelque chose. Et puis le 5 décembre, il y a eu une attaque assez énorme de la ville de Bangui, et il y aurait eu à peu près 1 million de morts. Et je voulais parler un peu de cet événement où on était quelques journalistes à couvrir ça, parce que c'était assez traumatisant, parce que ça raconte aussi pourquoi j'ai décidé dans les années qui viennent de continuer à travailler sur ce pays. Et puis parce que j'espère que je ne reverrai pas un événement comme ça, parce que c'était quelque chose d'assez énorme, quoi, assez incroyable, quoi. On est fin 2013, ça fait déjà quelques mois, depuis le mois de mars, que le pays a été repris par... Il y a eu un coup d'État par un groupe issu du Nord qui s'appelle la Seleka, qui est plutôt musulman, qui a pris le pouvoir en cédant énormément de miliciens qui ont fait beaucoup de conneries derrière, qui pendant des mois et des mois ont continué à piller, à violer, à tuer, etc. Et pendant 9 mois, crée du coup une espèce de réaction de la population contre ce groupe, qui est donc plutôt musulman et qui s'attaque plutôt aux chrétiens. Dans la Centrafrique, il y a des chrétiens et des musulmans qui vivent ensemble depuis très longtemps. Il y a beaucoup plus de chrétiens que de musulmans, mais ça n'a jamais été un très très gros problème. Mais là, d'un seul coup, ça devient un problème dans ce pays. Donc cette population chrétienne qui pendant 9 mois subit la violence de la Seleka commence à se réorganiser en groupes d'autodéfense appelés les anti-Balaka, qui sont des miliciens, pour beaucoup des jeunes, des fermiers qui n'ont rien, qui n'ont pas vraiment d'armes à part des machettes. Quelques-uns ont des fusils de chasse qui sont des fusils, quand on tire dans une direction, la balle elle part complètement à côté.
Nos villages ne vivent plus en paix. Nos femmes et filles sont violées. Ils nous ont oppris. On n'a plus rien à manger, pas d'eau potable. Nous vivons dans la brousse comme des animaux. Nous souffrons sur notre propre terre et nous sommes révoltés. On combat les éléments de la Seleka. On veut le retour de l'ancien président.
Ils commencent de plus en plus à s'organiser. On entend dire qu'il y a des groupes, qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il y aura peut-être même un camp d'entraînement de miliciens anti-Balaka à quelques heures de marche de Bangui. Et avec mon amie Camille Lepage, une jeune photographe que j'ai rencontrée là-bas, on est devenus très amis, on a travaillé pas mal ensemble, on décide d'essayer de se rendre dans ce camp. Et un jour, on nous dit, bon, c'est bon, on va partir demain, c'est 6 heures de marche, vous pouvez passer une nuit sur place, et puis voilà.
Qui te dit ça ?
Des contacts qu'on a qui sont liés avec cette espèce de résistance, eux ils se considèrent un peu comme ça, de résistance du mouvement anti-Balaka contre la Seleka, contre la milice qui a pris le pouvoir à Bangui 9 mois plus tôt. Et on part tôt un matin et on monte dans la montagne, on marche et puis finalement au bout d'une heure on tombe sur un groupe d'une vingtaine de miliciens anti-Balaka qui sont armés, alors ils ont quelques fusils mais très peu, des machettes surtout. Et ils sont tous assez incroyables parce qu'ils se déguisent beaucoup, les anti-Balaka. Donc ils ont, il y en a un par exemple qui a des lunettes de soleil, il n'y a plus qu'un seul verre. Ils se mettent des choses dans les cheveux. Des fois, ils ont des petits gris-gris sur le torse qui considèrent, leur donnent des pouvoirs magiques comme de disparaître, de voler, des choses comme ça. Et donc c'est assez impressionnant de les croiser comme ça, presque par hasard. On s'y attendait pas, on croyait qu'on allait marcher 6 heures. Et là, on commence à discuter avec eux. Et en fait, on comprend qu'ils sont là pour nous attendre. Donc on leur dit, ah bah super, vous nous accompagnez jusqu'au camp. Non, pas du tout, vous pouvez pas aller au camp. Ah, bon, on comprend pas, ça fait une semaine qu'on organise cette visite. Nous, c'est embêtant. Non, mais vous pouvez pas. On voulait déjà venir vous voir. On pourra faire ça plus tard. Dans quelques jours, faites une interview et quelques photos. Et vous pourrez faire ça peut-être plus tard. On se dit, mince, on rouspète un peu. Et puis de toute façon, on se dit, on n'a pas vraiment le choix de toute façon. Donc, ok. Et on fait quelques photos, on discute un petit peu. Et en discutant, il y en a un peu, peut-être un peu moins fin que les autres, qui nous dit comme ça, on va attaquer Bangui. Vous lui dites, regarde, vous allez attaquer la ville de Bangui, mais vous allez vous faire massacrer, c'est pas possible. La ville de Bangui donc, a été reprise par Seleka 9 mois plus tôt, mais avec ils ont en plus depuis repris toute l'armée de Centrafrique. Donc ils ont récupéré des vraies armes, quoi, des véhicules, ce que eux n'ont pas du tout. Quoi. Donc on se dit, c'est n'importe quoi, ils peuvent pas attaquer Bangui, ils sont pas aussi naïfs à ce point. Quoi. Et quand il nous dit ça, en fait, il se fait engueuler par un autre qui lui met une petite tarte. Non, l'écoutez pas, lui dit n'importe quoi. Et on se regarde avec Camille, on se dit, mais non. Ils ne peuvent pas attaquer Bangui, c'est des bêtises, ils disent n'importe quoi. Bon, on fait nos petites photos, notre petite interview, etc. Et puis, on est obligé de repartir. Donc, on revient à Bangui et on se dit, bon, bah tant pis, hein, ça n'a pas marché pour l'instant. Mais bon, au moins, je pense que là, maintenant, on les connaît bien. On devrait réussir à faire notre visite dans quelques jours dans ce camp d'entraînement qui serait à 6 heures de marche d'ici. Et puis, bon, bah voilà, la journée est un peu faite. On se dit, bon, bah qu'est-ce qu'on va faire les prochains jours? Bon, tant pis, bon... On va se coucher. À ce moment-là, on logeait tous les deux dans un appartement à Bangui. Et puis, à 5h du mat, ou 6h du mat, après, Camille se réveille en furie, elle vient me voir. Ah là, William, on n'arrête pas d'essayer de me joindre. Depuis tout à l'heure, mon téléphone n'arrête pas de sonner, j'ai raté les appels, mince. Qu'est-ce qui se passe ?
on n'arrive pas à joindre les numéros qu'on essaie de l'appeler, on voit des SMS, des contacts à elle, lui disent qu'ils ont effectivement attaqué Bangui.
Branle-bas de combat dès l'aube en plein cœur de Bangui. La brume du fleuve n'est pas encore levée et au loin on entend des tirs de mortier. Des dizaines de véhicules chargés d'hommes armés de lance-roquettes convergent vers le palais présidentiel. À leur tête, un général nerveux.
C'est pas le moment.
Non, c'est juste c'est pour pas le moment. C'est pas le moment. Hein? Je appelle ça, c'est le moment des danses.
Il est 6 heures du matin, là, à peu près, quoi.
Donc le jour est déjà levé, mais la ville est complètement vide. Normalement, il y a déjà un peu d'activité à 6h du matin en Afrique. Là, c'est désert. Et puis, il va se passer un bon moment avant qu'on décide de sortir parce que les infos sont pas très claires. On ne sait pas si c'est dangereux ou pas pour nous. Finalement, on va se rendre dans le quartier musulman de PK5 où on a entendu dire qu'il y avait des morts qui allaient être enterrés, qui étaient à la mosquée. Donc on arrive, effectivement, il y a une trentaine de morts. Là, ils nous disent « oui, on nous a attaqués, on nous a pris pour cible, etc. » Ok, on fait des images, les gens sont un peu énervés contre nous. Heureusement, on est un peu encadré par certains de nos contacts. Et puis, plus ça va, plus deux jours qui suivent, en fait, on réalise qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces anti-bagarres ont vraiment attaqué. Ils étaient plusieurs milliers, sans armes, sans rien, et qui se sont fait complètement massacrer. Donc, effectivement, on a commencé par photographier les morts musulmans, mais il y en avait très peu. Après, on a commencé à pouvoir se déplacer, on a récupéré une voiture, on a commencé à pouvoir se déplacer à plusieurs journalistes. Et plus à chaque fois qu'on est dans les quartiers, on tombait sur des morts en pagaille. Et c'était tous ces miliciens anti-Balaka. Il y avait des corps un peu partout. Il y en avait qui étaient tombés des arbres, parce que j'imagine qu'ils étaient cachés dans des arbres. Il y en avait qui avaient rampé. Et il y avait aussi des civils. On a vu des femmes, des enfants. Et tous les jours, on voyait de plus en plus de morts. Et tous les jours, on allait à la morgue. Il y avait de plus en plus de morts, jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait carrément toute la cour de la morgue qui était pleine de corps. Je me souviens plus des chiffres, mais c'était plusieurs centaines de corps à la morgue de Bangui. Pas les uns sur les autres, mais presque. Je me souviendrai toute ma vie, je crois, de cette. Il y avait un corps, c'était une femme enceinte. Alors j'espère que c'était une balle perdue et qu'elle n'a pas été visée délibérément, mais une femme enceinte, très enceinte. Et voilà, il y a eu donc 3 jours comme ça qui ont été assez intenses, On ne s'y attendait pas, enfin personne ne s'y attendait à cette attaque, c'est assez incroyable.
Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens.
Après ce massacre, l'armée française est intervenue, ce qui était une bonne chose. Trop tard, il aurait fallu que ce soit plus tôt, je pense, mais est intervenue pour calmer la Séléka et peut-être essayer de la virer du pouvoir, quoi. Sauf que du coup, ça a fait que toute la population chrétienne excédée, triste et meurtrie par ce massacre et puis aussi les 9 mois précédents de problèmes de violence a commencé à vouloir se venger contre la communauté civile musulmane qui était moins protégée parce qu'il y avait l'armée française qui essayait de bloquer un peu la Séléka. Donc du coup, ce qui a été très mal calculé par l'armée française, mais alors vraiment très 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 mal, c'est une erreur énorme je pense, c'est que du coup, très rapidement, il y a eu un début de génocide contre les musulmans, quoi. Et a commencé, dans l'autre sens, des massacres contre les musulmans. Alors, peut-être pas autant de monde d'un seul coup que l'attaque du 5 décembre, mais des choses affreuses. Et ça a duré pendant des années derrière, quoi. Il y a eu un vrai nettoyage ethnique, hein. Tout l'ouest du pays avait quasiment plus de musulmans. Donc, ce que j'ai couvert aussi pendant les 6 mois, ou même un an derrière, j'ai couvert surtout ça, quoi. Et donc on est en pleine dans cette période comme ça où le pays est plus ou moins coupé en deux. Et il y a un moment où je me retrouve sur cette espèce, alors c'est pas une frontière, mais en tout cas toute cette espèce de partie au milieu du pays qui est pas claire où ça se bagarre beaucoup. À droite, pardon, à l'est de cette ligne, on est plutôt en pays musulman et c'est les cas. Et à l'ouest, on est plutôt en zone chrétienne anti-Balaka. Et donc toute cette zone au milieu, il y a plein de combats, ça bouge beaucoup, des déplacés, etc. Et à un moment, on se retrouve coincé par la pluie avec 2 autres journalistes, un peu dans ce coin-là. Et on se retrouve vraiment à un moment où on voit la naissance d'un camp de réfugiés, quoi. Enfin, d'un camp de déplacés en l'occurrence. parce qu'il y a des combats, les gens prennent peur, ils vont tous à l'école, c'est souvent ce qui se passe. Les gens vont tous à l'église ou tous à l'école pour essayer de se protéger. Là, en l'occurrence, l'église et à l'école sont juste à côté d'ailleurs. On est dans une petite ville qui s'appelle Grimari. Et on sait qu'il y a des bagarres un peu dans la jungle autour, que les anti-balakas sont pas loin, il y a les sélékas. Et un jour, je suis en train de faire des photos, les premiers jours, je suis en train de faire des photos dans cette école où il y a tous ces gens qui s'en sont déplacés, donc plusieurs milliers de gens, en plus il pleut et tout, qui sont là à attendre. Comme ça, ils ne veulent pas sortir de l'école, ils ne veulent pas retourner chez eux parce qu'ils ont peur des combats. Et puis là, on voit une voiture de sélékas passer dans la cour, comme ça. Je vois les gens qui sont hyper inquiets, qui commencent à dire des choses, là, là. Les sélékas, voilà, très armés et tout, font que traverser la cour avec leur 4x4 comme ça et ils partent. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Ils sont allés tuer des gens là-bas, ils sont allés tuer des gens, il faut que vous alliez voir, il faut que vous alliez faire des photos. » J'avais un super chauffeur à ce moment-là qui était génial, il s'appelait Roger, un grand, assez courageux. Je lui dis « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il me fait « Bah vas-y, on va voir vite fait. T'es sûr ?»« Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète pas, ils sont partis, on sait pas loin, on va voir vite fait. » Roule pas longtemps, 10 minutes, et on arrive dans un village où il y a une scène de... C'est incroyable, il y a une hutte qui brûle, il y a deux corps par terre, et des gens qui pleurent. Et puis je m'aperçois qu'il y a un troisième corps, qui est une femme, et les gens pleurent, et je fais quelques images, et puis là, mon chauffeur me dit « Maintenant, faut qu'on y aille, parce que là, si on retombe sur eux, ça va pas être bon pour nous. » J'ai à peine le temps de poser deux, trois questions. On me dit « Oui, ils sont arrivés, ils ont tué, ils ont tiré, etc. » Et je fais quelques images, on repart, on est un peu stressé, de peur quand même de tomber nez à nez avec ces sélékas qui pourraient revenir. Et heureusement, ça se passe pas. Je me souviens que j'ai fumé pas mal de clopes sur ces 10 minutes de trajet. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a compris après, parce qu'après, on a été quand même interviewé avec les autres journalistes, disant qu'on a, sans dire que j'avais fait des photos, mais en disant qu'on avait entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient morts dans ce village. On a été voir un chef séléka, lui demander ce qui s'est passé. Il nous dit « Oui, oui, on a fait une opération, on a été tués des terroristes anti-balaka. » Bon, il y avait une femme quand même dans le groupe des trois, donc on lui dit « Mais on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui, oui, c'est dommage collatéral. » Voilà, et cette image, elle est restée assez forte. Elle a été primée d'ailleurs aux États-Unis. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert la guerre, comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens, quoi.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.